avaient des règles morales strictes, mais il les avait rendues si exigeantes que personne ne pouvait vraiment s'y conformer, pas même eux. D'ailleurs, ils donnent eux-mêmes un jugement à cette parabole. Il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons. Ils prononcent ainsi leur propre condamnation. Ouf ! Maintenant que nous avons remis cette parabole dans son contexte historique, nous pourrions nous dire que finalement nous ne sommes pas concernés et que ce texte est daté et que Jésus s'en prend uniquement aux instances religieuses de l'Israël de son temps. Mais non, nous sommes tous concernés aujourd'hui, que nous soyons ministres de l'Église ou prédicateurs, que nous soyons catéchètes ou conseillers. J'irai même plus loin, ce texte nous concerne tous qui sommes rassemblés dans ce temple ce matin, et même ceux qui ne sont pas là. Car la réforme protestante a remis en vigueur la notion de sacerdoce universel. Nous exerçons tous un service, un ministère, auprès de nos frères et de nos sœurs, dans l'Église et dans la société. Oui, nous avons tous une responsabilité. Et cette responsabilité, nous pourrions l'exercer comme les chefs des prêtres et les pharisiens, c'est-à-dire en adoptant un discours moralisateur et en nous considérant comme propriétaires de ce qui nous a été confié. Mais nous devons plutôt être simplement conscients et reconnaissants de la grâce inconditionnelle de Dieu envers nous et envers les autres. Et en exerçant la bienveillance vis-à-vis de tous, à commencer par nous-mêmes. Et quand nous assistons à la destruction de la création que Dieu nous a confiée, nous sentons que nous sommes également concernés. Voyez les drames qui se passent actuellement dans le sud de la France, qui nous ramènent à une humilité. La mise en coupe des ressources minérales, végétales et animales de notre terre fait que le 25 août de cette année, nous avions déjà épuisé les ressources que la planète peut renouveler en un an. Et cette date avance chaque année. Comme nous le savons, l'élévation trop rapide de la température, la raréfaction de nos ressources en eau potable, met en péril la vie sur Terre de certaines espèces, dont la nôtre. Elles seront amenées, si rien ne change, à disparaître, laissant la place à d'autres formes de vie, les lichens, les mousses, les insectes, les invertébrés marins, qui pourront s'adapter. Que la Terre risque de nous être enlevée est malheureusement une réalité, mais ce n'est pas le propos de Jésus, ni à l'époque, ni pour nous aujourd'hui. Dans cette parabole, le propriétaire confie la vigne au vigneron. Mais voilà, cette confiance, il l'emploie mal, et en viennent à se considérer comme propriétaire de la vigne. Dès lors, le fils qui en héritera devient gênant pour eux, et il leur faut l'éliminer. C'est montrer que le désir de posséder et de maîtriser ce qui nous est offert ne peut mener finalement qu'à la violence. Le verset 38 nous donne une partie de l'explication. « Quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez !» Tuons-le et emparons-nous de son héritage. Frères et sœurs, à travers les serviteurs successifs, maltraités, exécutés, c'est la relation à l'avoir, à la possession qui est en jeu. Les vignerons ne veulent rien devoir à leur maître, ils veulent tout avoir. Ce maître, dans sa bonté, envoie son fils, avec l'espoir que les meurtriers le respecteront. Ce qui compte pour lui, ce n'est plus les fruits, mais le respect, le fondement de toute relation humaine. Il n'est pas sur le plan économique dans lequel sont les vignerons. Leur conjuration pour tuer l'héritier dévoile leur obsession de tout posséder, pas seulement les fruits, mais toute la vigne. Ils oublient qu'un héritage se reçoit par donation. Tuer l'autre, le fils dans ce cas, c'est refuser que la vie soit vécue comme un don reçu, à partager et donc à redonner. Comment mieux montrer que le désir de posséder et de maîtriser ce qui nous est offert ultimement, ne peut mener qu'à la violence et au meurtre, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Dans ce récit, Jésus utilise trois formules pour essayer de capter l'attention de ses auditeurs. Écoutez cette parabole, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, et enfin, je vous le dis. Nous mesurons ainsi combien Jésus cherche à être compris et reçu. Et cela s'adresse bien à nous maintenant. De cette manière, il nous invite à prendre du recul en se situant par rapport à notre intelligence et à notre compréhension des Écritures. Que fera donc le maître de la vigne? Notons que Jésus ne juge pas, mais interroge ses auditeurs, et donc nous, les auditeurs de ce récit aujourd'hui. Spontanément, comme aux pharisiens, la réponse de la loi du talion, œil pour œil, nous viendrait naturellement. Mes frères et sœurs, justement, le Dieu Père que nous présente Jésus ne ressemble pas au propriétaire de la vigne. Dieu ne va pas punir les injustes comme dans le récit d'Ésaïe. Au contraire, vous le savez bien, Dieu va s'acharner à gagner à lui tous les humains en commençant par les vignerons de la parabole. Cette parabole nous incite à réfléchir sur la conjoncture décrite ici, afin que nous nous corrigions en fonction de ce que nous avons compris de nos comportements imparfaits à l'égard du prochain et donc de Dieu. Si Jésus donne tort aux vignerons, il ne leur donne pas tort pour des raisons morales. Jésus ne leur donne pas tort d'avoir molesté les serviteurs et tué le Fils, même si cela nous choque. Il leur reproche d'avoir rompu le contrat qui les liait à leur maître en lui ôtant le droit d'être le maître. Que le maître soit présent ou absent, ce n'est pas le problème. Ceux-ci devaient normalement lui donner les fruits qui lui revenaient sans tenir compte de l'éloignement qui les séparait. En agissant comme ils l'ont fait, ils ont voulu contraindre le maître à ne plus exister en tant que tel. C'est pourquoi il tue le fils, plus d'héritier, plus de maître. Jésus nous invite à une autre logique. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui fera produire du fruit. Cette parabole est une anticipation. Nous sentons que la passion est présente à l'esprit de Jésus. Car, frères et sœurs, cette histoire de mort subie va se transformer en une histoire de vie. Jésus, devant les spécialistes des Écritures, leur révèle une rupture radicale qu'annonçait déjà le psaume 118. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. » C'est bien l'annonce d'un autre monde qui n'est pas la simple amélioration de celui-ci. Un temps vient où le règne de Dieu sera enlevé aux différents défenseurs officiels des Écritures, des temples et de la loi, pour être donné à un peuple qui produira son fruit. Après les prophètes, Jésus vient nous ouvrir à une autre manière de voir. La pierre rejetée par les constructeurs myopes devient la pierre d'angle, celle qui supportera la voûte et à laquelle il convient de s'ajuster. C'est là l'œuvre du Seigneur. Merveille à nos yeux, s'ils sont ouverts pour accepter de tout recevoir, pour pouvoir tout donner en retour et rendre grâce. Cette parabole nous rappelle que nous avons reçu le règne de Dieu en héritage, gratuitement, non pour le transformer à notre gré, non pour faire notre volonté, mais sa volonté. L'histoire humaine est parsemée de nos manquements à Dieu. Avouons que nous ne sommes chacun, chacune, pas très loin de la parabole d'aujourd'hui. Mais malgré tout cela, la bonne nouvelle que nous annonce Matthieu, c'est que Dieu veut encore et toujours nous faire confiance. Il nous aime avec passion et ne peut se résoudre à nous rejeter à cause de nos exactions. Il envoie son Fils car il croit davantage en l'humain que l'humain ne croit en lui-même. Sans cesse, il nous pardonne et nous redonne sa confiance. C'est ce que Jésus, le Fils, nous rappelle là où nous en sommes. Frères et sœurs, c'est aussi un appel qui nous est fait de ne pas dénaturer la réalité de Dieu en la modelant à notre manière. Le Dieu Père que nous présente Jésus-Christ ne s'impose pas à nous. Il nous propose son amour inconditionnel. Il nous invite à travailler avec lui pour l'avènement d'un monde autre et pour sa gloire. Amen.